RFI 8h30 à Paris et N'Djamena 7h30 à Abidjan. Simon Bourtembourg, à la une de votre journal le jour d'après au Tchad, où un triple scrutin était organisé hier.
Élections communales, provinciales et législatives largement boycottées par une partie de l'opposition. Les observateurs à N'Djamena rapportent un faible taux de participation. Nous revenons sur ces scrutins au début d'édition. La crise au Nigeria, où le salaire mensuel minimum ne permet même plus d'acheter un sac de riz de 50 kilos. Le prix du riz a encore augmenté de 8% au mois de décembre. Illustration, s'il en fallait, de l'inflation galopante qui affame les Nigérians. L'UNICEF s'inquiète des conditions de vie des enfants dans les zones de conflit. Nous le verrons dans un instant, l'Afrique est en première ligne. Et puis nous serons à Bangui, où les autorités craignent que les pétards ou même les tirs mallards de guerre ne résonnent dans les rues, et ce pour célébrer la Saint-Sylvestre. La dernière étape de la transition politique au Tchad, c'est ainsi que le régime du maréchal Mahamat Idriss Déby présente les élections qui se tenaient hier. Un triple scrutin boycotté par une partie de l'opposition et pour lequel la participation apparaît davantage comme la principale interrogation. Hier, 8 millions d'électeurs tchadiens étaient donc appelés aux urnes pour ces élections législatives, provinciales et communales. Mais à N'Djamena, en tout cas, la participation s'annonce faible selon des observateurs. Victor Moria.
Au petit matin, dans les rues de N'Djamena, les bureaux de vote ont fleuri. Nous sommes ici au quartier Kabalaï, dans le 3e arrondissement.
Avant 6 heures, nous avons d'abord vérifié les matériels apportés par l'ange. Nous avons fait une mise en place, tous les décors plantés. Nous avons commencé à 7h00.
Roger Ngattar est le chef du 5e bureau. Les électeurs se font attendre, mais ils ne perdent pas espoir.
Le travail est calme. Les électeurs arrivent à compte-gouttes. Mais là même, nous ne perdons pas confiance. Il y a les heures de pointe à cause du froid. Donc ils vont arriver à l'heure où il fait un peu chaud, ils se détendront.
Les votants qui se déplacent doivent d'abord trouver leur nom sur les listes électorales affichées devant les bureaux. Pour Abdoulaye, ce n'est pas facile.
Le premier bureau, là, c'est moi, je crois, le 10e bureau, même. Je n'ai pas trouvé pour faire la vote.
Heureusement, il y a les assesseurs, comme Yahya, pour les aider.
C'est un peu mélangé, mais bon, il faut juste du temps. Une fois qu'ils trouvent leur nom dans la liste, ils peuvent passer.
Au moment du dépouillement, après une journée sans incident notable, les premières tensions apparaissent.
C'est maintenant que je vois les gens qui se querellent pour le PV. Le président du bureau ne leur a pas donné, c'est ça seulement.
Et qui l'a demandé ?
La femme a demandé au président du bureau.
Elle a le droit de le demander ?
Elle a le droit de demander le PV.
Elle a le droit de l'obtenir aussi ?
Ou aussi, elle a le droit.
Et pourquoi elle ne l'a pas eu alors ?
Ça, je ne sais pas.
Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Et j'ajoute qu'hier, pour cette journée de vote, bon nombre de médias privés tchadiens avaient menacé de faire grève. Un mouvement finalement assez peu suivi en comparaison aux grèves du 23 et 24 décembre dernier. Les médias privés tchadiens demandent à la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel de leur verser leur subvention annuelle. Ils estiment que le manque de moyens ne leur a pas permis de couvrir correctement la campagne tchadienne. Une réunion politique à la saveur particulière pour l'Alliance pour la démocratie au Mali. L'ADEMA, l'un des principaux partis politiques du pays, tenait sa 20e conférence nationale à Koulikoro, à une cinquantaine de kilomètres de Bamako. L'occasion pour plusieurs des 11 opposants arrêtés en juin dernier de faire leur grand retour sur le devant de la scène politique. Libéré après 5 mois de détention pour la tenue d'une réunion non autorisée, ils ont cette fois donc été accueillis chaleureusement par leurs sympathisants. Correspondance régionale de Serge Daniel.
La réunion politique s'est déroulée en présence d'au moins 5 des 11 opposants maliens récemment libérés après plus de 5 mois passés en détention. Tous ont été applaudis. Ensuite, leur porte-parole s'est exprimé devant les nombreux militants. Moustapha Diko, également 4e vice-président du parti ADEMA, a commencé par rejeter les accusations d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État et de troubles à l'ordre public retenus contre le groupe des 11 ans. Il a ensuite réclamé la libération, je cite, de tous les autres détenus d'opinion et le retour au pays des exilés politiques. Fin de citation. Le retour à l'ordre constitutionnel reste une préoccupation d'une bonne frange de la classe politique locale. À la rencontre, plusieurs représentants de formations politiques l'ont rappelé. Non à la pensée unique a par exemple publiquement affirmé l'un des intervenants pour critiquer la junte, alors qu'un autre pas rappelé. Pour des raisons liées à l'insécurité, la vie s'est arrêtée dans plusieurs localités du Mali. Serge Daniel, RFI.
La fin d'une tournée dans le nord du Bénin pour le chef d'état-major de l'armée. Le général de division Fructueux Gba Guidi était en mission ces quatre derniers jours dans l'Alibori et le Borgou. L'occasion pour lui de passer en revue ses troupes et de réajuster le dispositif de lutte contre le terrorisme dans ces départements béninois situés à proximité du Burkina Faso, du Niger et du Nigeria. Des livraisons de matériel ont par ailleurs été planifiées pour le premier trimestre de 2025. Nouvelle hausse du prix au Nigeria, une illustration s'il en fallait de l'inflation galopante qui mine le pays. Il y a deux semaines, le président Bola Tinubu présentait un budget plombé par la menace d'un déficit record. Et bien depuis, les prix n'ont cessé de grimper et ceux des produits alimentaires n'échappent pas à la morosité ambiante. Après une nouvelle hausse des prix de 8% en décembre, le riz n'a jamais coûté aussi cher au Nigeria. Claire Fage.
75 000 naira, 48,50 $ et jusqu'à 99 000 naira dans la capitale Abuja. Le prix du sac de 50 kilos de riz dépasse désormais largement le salaire mensuel minimum au Nigeria. L'inflation alimentaire est au plus haut depuis 28 ans, près de 40% sur l'année. Les deux tiers des foyers nigérians souffriraient de la faim, selon l'Agence statistique nationale. Au moins 48 personnes sont mortes dans des bousculades lors de distribution de nourriture la semaine dernière. Le gouvernement de Bola Tinubu ne parvient pas à juguler l'inflation depuis qu'il a laissé flotter la monnaie nationale par rapport au dollar et supprimé les subventions sur le carburant. Rien n'y fait, ni le relèvement à 27,5% des taux d'intérêt, ni la proclamation d'un état d'urgence alimentaire, ni la suppression des taxes sur les importations. Le président nigérian a rappelé lundi dernier qu'il n'avait pas l'intention d'imposer un contrôle des prix, mais plutôt d'accorder des incitations à augmenter la production agricole nationale et que son gouvernement avait commandé 2000 tracteurs.
La précision signée Claire Fage du service économie de RFI. La famine guette 8 millions de personnes supplémentaires au Soudan. Un rapport soutenu par l'ONU et rejeté par Khartoum révèle que la famine s'est propagée dans 5 régions du pays déchirées par la guerre. Le Soudan, où 2024 qui s'apprête à se refermer, restera comme l'une des années les plus tragiques, et ce notamment pour les enfants. L'UNICEF s'inquiète d'ailleurs dans un récent rapport quant aux conditions de vie des plus jeunes dans les zones de conflit, et l'Afrique est en première ligne. Malgré les engagements de plusieurs pays africains pour protéger les écoles et garantir la sécurité des enfants, ces promesses sont souvent ignorées. Christina Okello.
Selon tous les indicateurs dont nous disposons, la situation des enfants dans les zones de conflit n'a jamais été aussi mauvaise. Et le Soudan est l'un des cas les plus préoccupants. Les parents déplacés nous racontent souvent que la destruction des écoles a été le déclencheur de leur fuite, car cela a marqué la fin de tout espoir pour leurs enfants. Et ce que nous observons souvent également, c'est que lorsqu'il y a de grands déplacements de population, les écoles deviennent des lieux privilégiés pour abriter les gens. Cela est compréhensible, mais cela signifie que les enfants non seulement sont contraints de quitter leur foyer, mais qu'ils perdent également l'accès à l'éducation. L'UNICEF est présent sur le terrain et tente de venir en aide aux familles. Mais de nombreuses zones restent inaccessibles en raison des combats. Un convoi humanitaire a pu atteindre Khartoum il y a seulement quelques jours, mais ça reste insuffisant. Le respect des règles de droit est indispensable pour protéger ces enfants en détresse, où qu'ils se trouvent.
Et vous aurez compris, il s'agissait de Joey English, l'un des porte-parole du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Nouveau pic de pollution aux microparticules en Côte d'Ivoire. La concentration est en ce moment jusqu'à 12 fois supérieure aux normes de l'OMS. Un phénomène qui frappe de nombreux pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier en pleine saison sèche. Selon les estimations du Programme des Nations Unies pour l'environnement, près de 400 000 Africains meurent chaque année en lien avec la pollution de l'air extérieur. Vous pourrez entendre le reportage de notre correspondant à Abidjan dans le journal de 9h. Les festivités du Nouvel An se préparent aux quatre coins du continent, à chaque pays sa tradition et ses habitudes. Depuis plusieurs années en Centrafrique, les festivités s'accompagnent de déflagrations, des pétards, mais aussi des explosions et des tirs à l'arme de guerre avec parfois des conséquences dramatiques. Une pratique qui inquiète de nombreux habitants de Bangui et qui a poussé le ministère ministère de la Défense à réagir. Reportage de Rolf Steve Domialu.
Partout à Bangui, on entend déjà les souhaits de bonne année partagés entre deux ou plusieurs personnes qui se croisent dans les rues. Voilà. Dans le quartier de Pétévo, certains habitants ont peur de passer le réveillon du nouvel an dans la confusion. L'année dernière, Chris Kifono a vécu un événement tragique.
Les coups de feu ont commencé en fait. Les gens ont paniqué, tout et tout. Il y avait un papy, c'était un surveillant. Lui, il avait les maladies de tension là. Et quand les trucs ont commencé, directement là, amenant à l'hôpital, et après, il est mort. Le papy, si, est mort suite à tel incident, genre les coups de feu, quoi. Donc, c'est par rapport à cela qu'il a rendu là.
Ces dernières années à Bangui, les coups de feu sont devenus des moyens de distraction pour certaines personnes pendant le réveillon de la Saint-Sylvestre. En 2020, le voisin de Caleb Domba a été blessé par une balle perdue.
Il était chez lui à la maison, devant la porte de sa maison, en train de sortir. Et subitement, il a eu une balle au niveau de sa jambe. Ce jour-là, il était vraiment paniqué. Ça a causé vraiment de tort à la famille. Il faut qu'on augmente le taux de patrouille des forces de l'ordre.
Afin de prévenir de nouveaux malheurs, le ministre de la Défense annonce le renforcement des patrouilles militaires dans toute la capitale. Dans un communiqué, le ministre a promis de traduire devant la justice les auteurs de cette pratique. Rolf Steve Domialeux, Bangui. RFI.
À plus qu'une répétition générale de la Saint-Sylvestre, des centaines de milliers de personnes ont dansé dans tout le week-end au rythme de l'afrobeat de Calabar dans le sud du Nigeria. L'événement considéré comme l'un des carnavals les plus prestigieux d'Afrique de l'Ouest attire chaque année près de 2 millions de personnes selon les organisateurs. Et puis, la production de cannabis légal s'annonce exceptionnelle au Maroc. Cette année, la production a atteint les 4000 tonnes, 13 fois plus que la récolte de 2023. Vous pouvez lire à ce sujet sur le site internet de RFI un article complet de notre correspondant à Casablanca. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi, restez bien à l'écoute. Tout de suite la suite d'RFI Matin avec vous, Andréane Mélard.